podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
The Fall est une série télévisée britannique créée par Alan Cubitt, diffusée depuis mai 2013 en Irlande sur la chaîne RTÉ1 et en Grande-Bretagne sur la BBC 2. La série raconte l'enquête du PSNI, le service de police d'Irlande du Nord, concernant des meurtres récents perpétrés par un tueur en série, Paul Spector, qui s'en prend à des jeunes femmes de Belfast. Après 28 jours d'investigation sans résultat, la PSNI fait appel au superintendant Stella Gibson de la Metropolitan Police Service pour réexaminer le dossier, une série donc avec une ambiance assez particulière. On en parle aujourd'hui avec Sarah Sepulcre et Nathanaël Picasse.
Hello.
Bonjour.
Au casting, on retrouve donc une Gillian Anderson transfigurée à tel point que Sarah, tu ne l'avais pas reconnue au premier visionnage.
Ouh, la honte.
Ah, c'est pas bien de me dire.
La fan de X-Files qui ne reconnaît pas Gillian.
Bon, ben je l'ai pas reconnue quand même pendant toute la série, j'ai quand même reconnu, mais c'est vrai que pendant la première séquence... J'étais, mais je la connais cette femme.
Bon, tu vas au coin tout de suite.
Non, mais de toute façon, j'ai décidé de balancer aujourd'hui, donc voilà, c'est ainsi. Bon,
je reconnais que j'avais pas reconnu aussi dans Battlestar Galactica Xena la guerrière, hein, donc je vais.
Mais enfin, là, t'as des excuses, quoi.
Pourquoi lui, il a des excuses et pas moi?
Mais parce que dans Battlestar Galactica, elle a pas une petite robe en cuir.
Oui, ouais, ben là, bon, elle est blonde. Oui, ben là. Dana Scully est blonde. Alors voilà, c'est dur. Voilà.
Ah, et en plus, dans Battlestar, Xena, elle est pas accompagnée de René O'Connor, donc c'est pas drôle.
Bon, si on en revenait à deux fois.
Oui, ça me paraît plus intéressant.
Donc, c'est bien ça, une série policière qui oppose, alors j'adore leur titre en Grande-Bretagne, la Detective Superintendent, je sais pas du tout comment ça se traduit, Stella Gibson, à ce tueur en série, Paul Spector. Nous, on sait que c'est Paul Spector, on sait que c'est un tueur en série, mais eux ne savent pas encore qui est le tueur en série, et même au début ne savent pas que ce sont des crimes en série. Donc on va vraiment voir l'enquête depuis son tout début en tout cas. Donc je ne sais pas ce que c'est Detective Superintendent en français. En gros, elle est conviée parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, l'enquête s'enlise et elle vient en fait évaluer l'enquête qui a été faite par d'autres inspecteurs de police. Et c'est elle qui va faire les liens entre différentes affaires.
Mais donc, elle joue bien un personnage britannique. Elle joue pas une américaine qui débarque et vient donner un coup de main aux Anglais.
Et ils n'ont pas fait le lien parce que les meurtres ne sont pas faits selon un rituel qui est le même, en fait, à chaque fois. Parce que ça, c'est le grand classique. Si c'est un serial killer, c'est à chaque fois le même rituel.
Mais en fait, il y a un modus operandi, mais qui est pas encore tout à fait fixé, puisqu'il n'a pas tué énormément de personnes. Et donc, si vous voulez, il fait poser les cadavres, donc il les dépose d'une certaine manière, mais il n'y a pas encore de lien parce que manifestement, la première fois, il aurait été dérangé et donc ça a été fait à la va-vite. Et donc les liens n'ont pas été faits tout de suite. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'on se rend compte que dans plein de séries qu'on connaît avec des profilers, ou ils comprennent très vite « Oh, c'est le même modus operandi qu'il y a 3 ans dans le Connecticut », vous voyez, un peu genre de truc.
Oui, on regarde dans la base de données, tac, ça sort. Puis on se souvient évidemment de la série Profiler où on était un peu dans le même ambiance.
Puis, c'est, non seulement eux, ils sont très bons, mais leurs serial killers sont toujours nickel au taquet, c'est-à-dire qu'ils ont toujours effectivement tout à fait les mêmes modus operandi. Et là, on se rend compte que, ben non, un serial killer, c'est aussi quelqu'un qui est en progression et qui commence, etc., puis qui commet des erreurs, parce que tous les serial killers ne sont pas Hannibal Lecter. Hein.
Oui, et surtout que, moi, il me semble, enfin, je ne suis pas un spécialiste du genre, mais enfin, il me semble quand même, pour avoir lu un petit peu de littérature par rapport à ça, que le serial killer super intelligent, etc., ça fait partie du fantasme, parce qu'en fait, a priori, ce sont des gens plutôt limités psychologiquement et intellectuellement.
Alors ici, c'est pas nécessairement son cas, mais c'est vrai que c'est pas Hannibal Lecter, ça c'est clair. Alors vous l'avez compris, on est très loin des ambiances ensoleillées bimbling de Dexter, hein. On est à Belfast, donc il fait pas beau, déjà.
Et donc, c'est pas une ville qui est souvent filmée, hein, on va dire.
Mais justement, c'est ça qui est aussi intéressant dans cette série, c'est que l'ambiance est tout à fait différente. Elle est vraiment très britannique. Alors, ça veut dire qu'il y a des accents différents, mais moi, je trouve ça savoureux d'entendre les accents un peu différents. Alors, ils ont quand même fait attention à pas prendre des acteurs qui ont l'accent irlandais à couper au couteau, parce que alors, c'est difficile à suivre. Les lieux sont différents, et même si les maisons, les manières de construire les villes en Angleterre ont inspiré les États-Unis, on sent qu'il y a une vraie filiation entre ces deux territoires, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, et donc on n'a pas l'habitude nécessairement de voir ce genre de maison, et Belfast, comme tu l'as dit, n'est pas nécessairement la ville la plus filmée en Grande-Bretagne. Je l'ai un petit peu dit, on n'est pas non plus nécessairement familiarisé avec les manières dont les policiers s'appellent, la hiérarchie policière qui n'est pas la même, les procédures qui ne sont pas identiques, les uniformes, et donc ça, je trouve, ça fait aussi un peu du bien. Et puis, je ne sais pas, il y a une certaine atmosphère, une manière de se comporter entre les gens. On sent qu'on n'est pas aux États-Unis, on sent qu'on est dans le monde britannique. N'allez pas croire pour autant qu'on est face à de l'humour britannique à la Little Britain. C'est vraiment pas du tout le genre. On est vraiment dans une série drama, une série très réaliste, qui ressemble un peu à Suspect numéro 1 avec Helen Mirren. Pour ceux qui ont vu cette série-là, en fait, on est un peu dans le même genre de... d'ambiance, avec un peu le même genre de commissariat, vous voyez, où, avec des murs verts, avec des néons qui éclairent pas toujours très bien, des couloirs interminables et un petit peu vieillots comme ça. On a le même genre de relation entre les gens, un peu froid aussi. Dans les séries américaines, on a toujours l'impression que tous les policiers se connaissent et qu'ils sont potes depuis des années. Là, on a l'impression que non, ils se connaissent pas et que donc il faut qu'ils prennent du temps pour se connaître. Même ceux qui travaillent dans la même ville, ben non. Le mec qui fait la circulation connaît pas nécessairement l'un des détectives de la criminelle, par exemple.
C'est un peu le dépaysement qu'on avait lorsqu'on regardait la version britannique de Life on Mars.
Ouais, tout à fait.
C'est vrai que dans la plupart des séries américaines policières, quand ils discutent entre eux, tout le monde arrive toujours selon un timing parfait pour apporter un élément supplémentaire à l'enquête. Ah, moi j'ai découvert ça de mon côté, moi j'ai découvert ça, et hop, après quelques discussions, on a trouvé, etc. Ce qui sous-entend une sorte d'alchimie absolument extraordinaire dans un commissariat, tandis qu'ici, a priori, c'est pas trop le cas.
Non, c'est même au point où des agents vont aller sonner chez la victime pendant qu'elle se fait tuer, parce qu'elle a déjà porté plainte pour violation de domicile, et vont laisser filer cette opportunité. Et c'est seulement après un certain temps qu'ils vont se rendre compte que cette fille qui a été tuée par le tueur de Belfast est en fait celle chez qui ils se sont rendus à ce moment-là. Donc il y a même parfois des choses de cet ordre-là. On a même parfois aussi l'impression d'avoir un certain machisme. C'était le cas dans Suspect numéro 1, où Jane Tennison était vraiment l'objet d'un vrai machisme de la part de ses subordonnés. Alors ici, ça va pas aussi loin, mais on n'est pas face à des flics qui sont tout gentils comme dans Castle, où super, notre chef est une femme, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et puis on est dans une affaire noire de noir, c'est un vrai polar en fait. Si vous voulez un tueur en série extraordinaire à l'Hannibal Lecter ou au Dexter, va falloir un peu oublier, ici on est plutôt dans le côté normal de la vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'héroïne. Alors déjà, Gillian Anderson, c'est super de la revoir. Moi, vous savez que je suis très fan de cette actrice et c'est un vrai plaisir.
Est-ce qu'elle casse d'ailleurs un petit peu son rôle de Dana Scully ?
Oui et non. Bon, déjà, elle est blonde.
Ah oui, alors là, alors ça change tout.
Ce n'est pas...
C'est un jeu d'actrice formidable.
Voilà. Alors, il y a des choses dans la lignée de Dana Scully. Elle sait ce qu'elle veut, elle est forte, elle est compétente, elle est froide. Et en même temps, on sent que... Il y a une évolution, parce que dans X-Files, elle est dans l'ombre de Mulder malgré tout. Ici, c'est vraiment elle, c'est elle le centre, et c'est elle qui vraiment doit porter la série. Et certains parlent même d'une héroïne féministe. Alors, je vous propose d'écouter un passage. Donc, elle passe dans la rue avec deux agents dans une voiture. Elle remarque un policier qui est sur une scène de crime, pas la scène de crime qui l'intéresse. Et elle demande à ce qu'on les présente. Et vous allez entendre qu'après une phrase, pour être gentille, elle lui dit... Je suis au Hilton, chambre 203. C'est clair, c'est net, c'est féministe.
Who's that? James Olsen, detective sergeant. Introduce us.
Been shooting in a house about a mile away. Car was stopped just up along there. Found guns and arrested three men. Been on the dogs.
Explosives? Oh, this is Detective Superintendent Gibson. She's here to review the Monroe investigation.
All right. Yes, Olsen. Nice to meet you. There's drugs. The deceased was well known to us. Will the review take long?
A week, maybe more. I'm staying at the Hilton.
Very nice.
Room 203. Good luck with your arrest.
Elle est chaude, notre amie Dana Scully.
Déjà, c'est un vrai paradoxe que de dire d'une femme qui a un ton aussi froid qu'elle est chaude. Elle sait ce qu'elle veut, ça c'est clair. Elle n'a aucun mal et aucun scrupule à dire à un gars, ou à lui faire très clairement comprendre « j'ai envie de coucher avec toi, point ». Elle aura aucun scrupule à lui dire « non, mais c'était un soir, mon pote, tu te barres maintenant ». Donc, c'est un personnage qui, à ce niveau-là, est effectivement brossé de manière très forte. Et en même temps, on peut pas dire que c'est vraiment une chaudasse dans le sens premier du terme, parce que...
Elle couche pas à tout va non plus.
Non, voilà. Et on sent qu'il y a vraiment une histoire de domination et de relation à autrui dans cette scène-là. Donc, c'est pas une scène qui est juste montrée pour montrer, ok, c'est une femme libérée, vous voyez ce que je veux dire. C'est une scène qui montre vraiment qu'elle est dans un rapport, non pas de relation humaine avec des gens, mais de domination avec les gens.
Et qu'elle sait ce qu'elle veut, surtout aussi.
Voilà. Puis après, ça va savoir qu'elle a couché avec ce gars. Elle en a rien à fiche. Elle se fait interroger par le patron, etc. Parce que ça, voilà, c'est une des manières aussi de traiter de manière un peu différente les relations au boulot. Elle leur dit très clairement, je vois pas pourquoi vous avez un problème. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Donc, à ce niveau-là, effectivement, c'est un personnage qui est relativement féministe. Ça montre aussi qu'elle est profondément seule et solitaire aussi dans cette série. Et c'est vrai que même si elle est souvent accompagnée d'autres personnages, elle est rarement en véritable relation avec eux. Elle leur parle, mais il n'y a rien.
Mais à partir du moment où tu es dans un système où tu aimes dominer les gens, tu es souvent seule de toute façon. Hein,
voilà. Et donc, ce personnage, il en est là. C'est aussi une experte qui est appelée en renfort et donc elle n'est pas connectée au tissu habituel.
Elle n'est pas là pour rigoler.
Cet endroit. Et elle n'est certainement pas là pour rigoler. Elle est là aussi un peu en opposition, puisque au départ, les gens n'ont pas vraiment envie de voir que ce sont des crimes reliés, parce que c'est une toute autre manière de gérer les choses, forcément, et que bah, si ça pouvait rester une simple enquête criminelle, ce serait bien. Et donc, c'est un personnage que je trouve assez fort et vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Ça n'est pas le seul rôle féminin intéressant dans cette série, puisqu'il y en a d'autres, mais il est vrai que toute la série repose sur ses épaules à elle. C'est Gillian Anderson, c'est vraiment un personnage très central. C'est pas le genre de série chorale, etc. Donc,
on n'est pas dans l'ensemble
non,
show.
Non, pas du tout. D'accord. Donc il y a d'autres personnages féminins intéressants. Je pense par exemple à la médecin légiste, qui est aussi elle très compétente, sur elle, professionnelle, mais sauf qu'elle n'a pas du tout ce côté asocial que Stella Gibson peut avoir. Elle est aussi accompagnée d'un agent de police, Danny Farrington, qui devient son assistante personnelle, qui est plus jeune, plus novice, plus émotive, et dont on sent que c'est quelque chose d'assez intéressant, que c'est un personnage qui a un potentiel vrai, véritable. Donc il n'y a pas qu'une manière d'être une femme dans cette série, mais forcément c'est Stella Gibson qu'on voit le plus et qu'on voit le mieux. Forcément, cette femme, elle est opposée à un serial killer qui est un homme, Paul Spector, qui est un homme à deux faces. Côté pile, c'est le père de deux enfants, une fillette et un garçon, un mari, un bon mari d'ailleurs, sa femme est infirmière dans un service néonat, c'est un psy spécialisé dans l'accompagnement des couples en deuil. C'est difficile d'ailleurs de voir si c'est un bon conseiller ou si son côté un peu psychopathe justement lui permet de faire ce travail parce qu'il s'en fout en fait des sentiments des gens. C'est un père attentif, aimant, donc il y a aussi parfois un vrai contraste entre ces scènes où on le voit avec ses enfants et les scènes où c'est le côté face qui se dévoile, c'est-à-dire le tueur.
Et on est clairement ici dans une série où on montre les deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire un moment on voit le tueur, un moment on voit l'enquête.
Oui, alors c'est une série qui à ce niveau-là est vraiment très intéressante parce que on ne nous ménage pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séquence où il y a un tueur, puis on passe à autre chose, puis on le voit avec ses enfants. C'est des fois même, les séquences sont des entrecroisements des deux. Le crime et le fait qu'il est avec ses enfants et qu'il joue avec eux. C'est même parfois très heurtant d'ailleurs. Et c'est aussi intéressant, j'y viendrai plus tard, mais il y a aussi parfois des entremêlements entre les séquences de Paul Spector, le tueur, et de Stella Gibson, l'enquêteur. Donc on fait des liens très forts entre ces personnages.
Ce qui est intéressant aussi, pour revenir sur le fait qu'il ait une vie de famille, etc., ça avait été aussi développé dans la saison 4 de Dexter, avec le tueur Trinity. C'est vrai que là aussi, on le voyait aussi avoir une vie de famille, etc., et a priori, en tout cas dans les premiers épisodes où il apparaît en tant que père de famille, bon père de famille, etc. Après, on gratte un peu sous le vernis et on se rend compte que c'est une sorte de tyran qui est craint par toute la famille. Ici, a priori, ça reste un bon mari, un bon père aimant du début à la fin.
En tout cas, pour la première saison, oui, je peux rien dire de la seconde saison. Mais pour la première saison, c'est le cas et c'est très vite marqué. C'est-à-dire que dès la première séquence ou la deuxième, on est dans cette opposition frontale et ce paradoxe du personnage et dans ce lien avec les autres. Et ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est un moment où Stella Gibson est en conversation avec la médecin légiste, explique qu'elle se dédouble, qu'il y a son moi professionnel qui deal avec des cadavres et qu'il y a son moi mère de famille, qu'elle est obligée de distinguer ces deux personnalités sinon elle devient folle. Et Stella Gibson dit moi aussi et le tueur aussi.
The MRI indicates that there is brain function. But if she does recover, there might be lifelong brain damage. Are you okay? The older I get, the more I have two selves. The medical self that's confronted every day with the biological basis of existence. Yeah, blood, internal organs, corpses. And then I have another self that bathes my kids, puts them to bed, kisses their little cuts and bruises better. Examining dead bodies is one thing. Living victims are something else.
There's a name for it. It's called doubling. I do the same. So does the killer.
Avant l'extrait, Nat, tu comparais Paul Spector à Trinity dans Dexter. Je trouve ça assez comique de l'avoir comparé à celui-là, parce que moi, je l'aurais directement comparé à Dexter, finalement. Puisque, comme le disait Sarah juste avant, on ne sait pas si il fait très bien son boulot de psy, parce que justement, il n'a pas de sentiments. Donc, peut-être qu'il est plus près de Dexter que de Trinity.
Le souci avec Dexter, c'est que Dexter, il est too much. Paul Spector, il est vraiment pas too much. C'est un personnage de père qui a des problèmes de père, c'est un personnage de mari qui a des problèmes de mari. C'est un serial killer qui est pas un serial killer infaillible. Quand on commence la série, en fait...
Il est dans la pulsion, certainement, voilà. Quand il tue, c'est presque une pulsion sexuelle.
Oui,
quoi.
Et puis il est en train de devenir le serial killer. Si vous voulez, il n'est pas à son 30e crime. On comprend qu'il en a à son 2e et il fait des conneries.
Il a eu sa famille avant de devenir un vrai serial killer.
Il est en train de devenir
Il avait tué des animaux avant, comme on a l'habitude de le dire, mais il n'avait probablement pas encore passé l'acte de tuer un être humain.
Et ce personnage aussi, je vous dis, il a deux côtés, mais on sent parfois dans son côté pile, donc le père de famille, qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et notamment, il y a un truc horrible, alors ça peut vous paraître un détail, mais il garde forcément des trophées, il fait des dessins, il fait des photos de ses futures victimes, et il cache tout ça dans le faux plafond de la chambre de sa fille. Mmh. Et c'est affreux comme image de voir parfois cette petite fille qui est en dessous de ça. Et c'est assez représentatif du côté parfois un peu encore...
Menace planante,
oui,
comme ça.
Oui, puis ça ne se fait pas. Quand t'as un bon serial killer, tu sais que tu peux pas faire ça. Tu dois bien cacher les trucs, c'est pas dans la chambre de ta fille.
Vraiment. Voilà, mais et en plus, ce qui est marrant, c'est comme c'est un homme qui déteste les femmes, enfin il a un problème avec les femmes, qui met ça dans la chambre de sa fille et pas dans la chambre de son fils, c'est pas par hasard non plus.
Et donc, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont potentiellement là pour la deuxième saison. Il y a quand même pas mal de choses qui restent en suspens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des liens qui se faisaient entre, et c'est clairement dit dans l'extrait qu'on a écouté, entre elle, Stella Gibson, le tueur, d'autres personnages. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant dans cette série. On n'a pas d'un côté le serial killer et de l'autre Clarice Sterling, le blanc et le noir. On sent que, en fait, ces deux personnages-là ont des problèmes de domination et de contrôle d'autrui, de contrôle de leurs sentiments. C'est juste qu'ils n'en sont pas au même degré. Il y a des liens très forts entre certaines caractéristiques de Stella Gibson et de Paul Spector, mais il y a aussi des liens entre Stella Gibson et les victimes de Paul Spector. Une des victimes expliquait comment elle pensait, et elle fait un lien avec des tribus de je ne sais pas où, en disant, vous savez, dans ces tribus-là, en fait, les femmes invitent des hommes à venir coucher chez elles et c'est pas grave. Et c'est exactement une phrase que Stella Gibson reprend à un moment. Donc on sent en fait que c'est pas d'un côté victime de l'autre. Les enquêteurs ou le tueur, il y a des liens, c'est pas si clair où est le bien, où est le mal. La ligne homme-femme ne reprend pas nécessairement tout ça, et ça je trouve que c'est vraiment assez bien amené. Un tout dernier élément dont j'aimerais vous parler, c'est que cette série a été l'objet de certaines critiques, parce que je vous ai dit, c'est une héroïne féministe. C'est d'ailleurs la directrice de l'Université des femmes qui m'avait dit ça, donc je lui fais un spécial coucou, Valérie Laudevoot. Donc si c'est une féministe qui me dit que c'est un personnage féministe, je ne suis pas la seule à le penser. Mais elle a été notamment critiquée pour le fait que, encore dans cette série, ce sont des femmes qu'on assassine. On a des passages où on les voit mourir, on a des passages où on voit des agressions sexuelles, etc. Donc il y a eu des critiques de voyeurisme, de violences faites aux femmes, etc. Alors forcément, à partir du moment où on choisit de faire un serial killer, on choisit que ce serial killer va tuer des femmes et non pas des homosexuels ou des enfants ou que sais-je. On sait qu'il y a toujours une dimension sexuelle dans beaucoup, en tout cas dans les crimes des serial killers. Forcément, il y a un moment où on doit faire le choix de montrer ou de pas montrer ce qui se fait. Contrairement à d'autres séries, et il cite par exemple Engrenage, qui a été diffusé dans les pays anglo-saxons. Première image, on voit une femme nue, mutilée. On sait rien d'elle, à part qu'elle est nue, mutilée. Dans The Killing, on voit une femme qui court pour sauver sa vie, et ça marchera pas. Dans Suspect numéro 1, la première séquence, c'est le meurtre brutal d'une prostituée. Il dit, moi, je voulais que le téléspectateur connaisse les victimes, sache qui elles sont, qu'est-ce qui est important pour elles, avant de les voir mourir. Et dit, la différence, elle est là. C'est que j'ai essayé de donner une dimension à ces victimes. Ce sont pas juste des victimes.
C'est pas un bovin qu'on envoie à l'abattoir, voilà. Quoi.
Et alors, il dit, Sarah Kay, la victime, on connaît sa vie, on connaît sa famille, on connaît son métier, on sait avec qui elle pourrait sortir. C'est vrai qu'on voit ensuite son corps maltraité, mais c'est pas n'importe quel corps qu'on peut regarder de manière froide. Et dit, à ce niveau-là, il ne voulait pas que le téléspectateur soit dans la même vision que le serial killer lui-même. Lui, il les voit comme des objets, mais il ne voulait pas que nous, on puisse les regarder comme des objets. Ce que je trouve assez intéressant comme positionnement de la part d'un créateur. Et il ne voulait pas non plus que les victimes pleuvent. Il voulait qu'il n'y ait pas 30, 40, 50 victimes dont
sinon,
on voit
après,
trois secondes.
Fiche,
voilà, pof, 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 ça meurt, un bout de sein. Donc, c'est pour ça aussi que Paul Spector n'est pas un super tueur. Et je trouve que ça se ressent vraiment très fortement dans la manière dont la série amène les choses et je trouve ça intéressant. On est quand même mis dans une position de voyeur à certains moments. Parfois, d'ailleurs, ça met mal à l'aise puisque c'est en lien avec d'autres facettes de ce tueur en série qui sont frontalement en opposition, mais je trouve que c'est finalement assez intéressant. Une toute dernière chose avant probablement de clôturer en vous disant qu'il y aura une seconde saison et donc personnellement je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et Gillian Anderson est productrice, donc on peut imaginer que la série va garder sa direction. Il ne faut pas commencer cette série en disant qu'on est face à deux shields et qu'on va avoir de l'action toutes les 30 secondes. On est vraiment dans un système de narration lent, qui prend son temps, qui ménage des silences. On est vraiment dans une série britannique et un drama britannique et pas dans une série américaine. Il faut pas s'attendre à avoir une série américaine quand on regarde cette série, sinon je pense qu'on va passer à côté et qu'on risque de pas aimer, tout simplement.
Voilà, donc si vous voulez découvrir une série policière avec une ambiance un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, on vous invite donc à découvrir The Fall. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.